L'esprit public, Philippe Meyer, bonjour. Bonjour, merci de nous avoir rejoints pour cette nouvelle édition de l'Esprit public au cours de laquelle nous nous efforcerons d'éclairer certains éléments de l'actualité de la semaine écoulée. Nous le ferons avec Michaela Wiegel, correspondante à Paris de la Frankfurter Allgemeine Zeitung, avec Jean-Louis Bourlange, essayiste, avec François Bujon de l'Étang, ambassadeur de France, et avec Thierry Pech, directeur général de la Fondation Terra Nova. Je vous signale que la semaine prochaine, nous serons en direct et en public à la Maison de la Radio et que vous pouvez d'ores et déjà vous inscrire pour assister à l'émission sur le site Maison de la Radio, sans aucune espèce de séparation, maisondelaradio.fr, donc dimanche prochain, en public et en direct. Nous allons commencer par nous intéresser à la situation de l'écologie politique en France. Lors du congrès décentralisé organisé par Europe Écologie Les Verts, le week-end dernier, la motion Horizon 2025, portée par Cécile Duflot et David Cormand, l'a emportée. Le second tour de ce scrutin se tiendra samedi prochain au Congrès fédéral, organisé pour élire un bureau exécutif et un nouveau ou une nouvelle secrétaire nationale du parti. La motion concurrente emmenée par la porte-parole du parti Sandrine Rousseau propose de rénover Europe Écologie Les Verts. En effet, ce groupe a connu ces derniers mois une série d'événements qui ont fait baisser son nombre d'adhérents. Lors du congrès, seuls 3000 votants se sont exprimés contre 5000 en 2015. La démission de la présidente du parti, Emmanuel Cos, nommé ministre du Logement dans le gouvernement Valls, a précipité l'implosion du groupe parlementaire à l'Assemblée nationale. 6 députés réformistes étant partis grossir les rangs du parti socialiste le 19 mai dernier. C'est la première fois qu'une telle disparition se produit dans l'histoire parlementaire de la Ve République. Europe Écologie Les Verts est aussi affaiblie par la plainte pour agression et harcèlement sexuel qu'ont déposé plusieurs femmes contre l'ex-vice-président de l'Assemblée nationale Denis Baupin et dont la porte-parole du parti Sandrine Rousseau. Les regards se tournent donc aujourd'hui vers Nicolas Hulot, que plusieurs Verts aimeraient désigner candidat à l'élection présidentielle de 2017. En 2011, il avait perdu la primaire des écologistes face à Eva Joly et voté pour Jean-Luc Mélenchon. Plusieurs fois proposé au ministère de l'écologie sous des gouvernements de gauche comme de droite, il a été recruté par François Hollande comme envoyé spécial pour la protection de la planète lors de la COP21. La situation est bien différente à l'étranger. L'élection d'Alexander Van der Bellen en Autriche le 22 mai dernier a donné à l'Europe un deuxième chef d'État écologiste, après Raimond Svejonis, président vert de la Lettonie depuis 2015. En Allemagne aussi, dans le Land de Bade-Württemberg, l'écologiste Winfried Kretschmann a été réélu chef du gouvernement après les élections parlementaires régionales en mars. En Europe, l'histoire de l'écologie a une quarantaine d'années. Le premier parti écologiste au niveau national est apparu en Grande-Bretagne en 1973. Dénommé au départ People, il devient en 1985 le Green Party actuel et sa création avait été directement inspirée par le rapport du Club de Rome en 1972, rapport intitulé Les limites de la croissance. Malgré une installation progressive des partis écologistes en Europe et des scores stables, leur position dans les gouvernements est précaire du fait de la nécessité de trouver des partenaires pour former des coalitions avec des grands partis sociaux-démocrates ou conservateurs, ce qui restreint leur capacité d'action et les oblige à sacrifier certaines revendications. Sur cette question, Thierry Pech.
Oui, alors il y a deux niveaux de discussion. Le premier niveau, c'est la place de l'écologie politique sur la scène politique. Et puis, un deuxième niveau, qui est la place des idées de l'écologie politique dans le débat public en général, en France et en Europe. Alors sur le premier niveau, vous avez rappelé, Philippe, les déconvenues d'Europe Écologie Les Verts de ces derniers mois, qui sont nombreuses. Ils n'ont plus de groupe parlementaire. Ils se sont profondément déchirés, divisés sur la question de savoir s'ils devaient être aux côtés du gouvernement ou à distance du gouvernement. C'est un débat qui est aussi vieux que la création d'Europe Écologie Les Verts. En fait, la question existentielle de ce parti, c'est avec ou sans eux, eux étant les socialistes. Ils voudraient se mettre à distance des socialistes, non seulement parce que l'exercice du gouvernement est un exercice difficile qui ne vous fait pas forcément beaucoup d'amis, mais parce que, au fond, Ils ont de vraies divergences idéologiques avec les sociodémocrates sur la croissance, sur le contenu de la croissance. Il y a des discussions, si vous voulez, qui n'ont jamais été tranchées. Mais il y a aussi, bien sûr, une impasse stratégique. Sans le gouvernement, sans les socialistes, les écologistes ne peuvent pas espérer avoir une réelle présence au Parlement. Et en 2011, le problème s'était réglé dans un accord un peu sous la table, j'ai envie de dire, entre Cécile Duflot et Martine Aubry. Et Cécile Duflot avait écopé d'un cadeau absolument fantastique, des dizaines de circonscriptions gagnables, dont la sienne. Cécile Duflot a été élue dans une circonscription où à peu près n'importe qui marqué gauche sur son t-shirt aurait été élu. Donc ça c'est lié simplement à la Ve République, au scrutin majoritaire à deux tours, au fait qu'il faut passer 12% pour se qualifier pour le second tour, et que si vous avez en face de vous un concurrent, eh bien vous avez, si vous êtes écologiste, un fort risque de ne pas vous qualifier pour le second tour. Il faut donc que le Parti Socialiste fasse de la place aux écologistes pour qu'ils puissent espérer être au Parlement. Et donc la perspective de 2017 est un dilemme absolument cornélien. Est-ce que on veut être aux côtés des socialistes parce qu'on veut une place aux législatives, mais à ce moment-là effectivement on se colle aux côtés d'un bilan qui ne veulent pas assumer, ou est-ce qu'on se met loin d'eux, auquel cas on disparaît. Donc il y a deux façons de disparaître, si vous voulez, aujourd'hui pour les écologistes, en étant présent au premier tour de la présidentielle et en faisant un score dérisoire, ou en étant totalement absent pour pouvoir avoir des investitures législatives. Je laisse ce premier point, mais c'est l'équation existentielle d'Europe Écologie Les Verts. Deuxième point, la place des idées écologiques dans le débat public. Alors ça, c'est le plus important finalement. Les idées écologiques en politique, ce qu'on appelle l'écologie politique, c'est la seule idée neuve dans le monde des idées politiques depuis 1945. Toutes les autres tendances, on les connaissait. Je veux dire, c'est la seule idée vraiment neuve qui est liée à la lente prise de conscience des dégâts de la société industrielle sur notre environnement et de la responsabilité humaine sur ce qui avait été considéré pendant des millénaires comme le cadre invariant de l'action des hommes. Hans Jonas, le principe responsabilité, vous avez sans doute lu ce livre, c'est un moment de cette prise de conscience. Bon. Dans l'opinion, qu'est-ce qui se passe? Dans l'opinion, c'est le cadet des soucis des opinions, de la plupart des opinions européennes, et singulièrement de l'opinion française. Quand vous regardez la liste des préoccupations prioritaires des Français dans les sondages, vous apercevez que l'écologie est très loin. Elle est en 5e, 6e, 7e, parfois 10e position derrière d'autres considérations, dont on peut d'ailleurs discuter sur le fond, la priorité quelquefois. Donc, on a là un très sérieux problème qui est lié beaucoup au fait qu'on est dans une crise économique et que dans ces moments-là, l'ordre des priorités met l'écologie très loin, alors même que, tous les scientifiques nous le disent, nous sommes devant des défis absolument colossaux. Les scientifiques nous disent par exemple que nous avons une certaine quantité d'émissions de CO2 à ne pas dépasser pour que la machine du réchauffement climatique ne s'accélère pas. Eh bien, en même temps, les acteurs économiques ont 5 fois en actifs fossiles, ce qu'il faudrait ne pas dépasser. Donc vous voyez, il y a une contradiction absolument radicale entre un modèle économique d'une part et d'autre part les intérêts de la planète. On est donc dans une situation extrêmement délicate. Alors sur Hulot, on y reviendra peut-être. Moi je pense qu'il est toujours très très difficile de convertir la monnaie société civile en monnaie politique. En général, elle se démonétise très vite lorsqu'elle passe en politique, mais c'est un point sur lequel on pourra sans doute revenir.
Michael Lavigueul.
Oui, il est très étonnant de comparer la situation aussi bien sur le plan doctrinal, en quelque sorte, que sur le plan de l'organisation des Verts en Allemagne. Et pour faire court, même s'il s'appelait plus que Europe Écologie les Verts en France. Et ce qui est frappant, je pense, c'est que, et c'est un problème, je crois, propre à qui traverse toute la gauche française, c'est qu'ils n'ont jamais vraiment développé une culture de gouvernement. Ils n'ont jamais tranché ce conflit que Thierry vient de mentionner aussi, entre ce qu'en Allemagne on appelait les réalistes des Verts et les fundis, les fondamentalistes. Et ce conflit-là en Allemagne, il était tranché assez tôt, au début des années 90, où effectivement c'est les réalistes qui ont gagné, donc ceux qui voulaient exercer le pouvoir. Et du coup, on a restructuré en ce moment-là le Parti des Verts et nous avons préparé la première accession au pouvoir à des Verts en 98, le fameux gouvernement rouge-vert avec Schröder, le chancelier Schröder, avec son ministre des Affaires étrangères, Joschka Fischer, qui était une des figures marquantes à l'époque de l'aile réaliste, qui a donc obtenu une adaptation aussi de la doctrine. Et donc je pense qu'il est très important de voir si aujourd'hui, même s'ils sont plus au pouvoir central, les Verts en Allemagne, ils exercent le pouvoir, comme on vient de le dire, dans un des Länder les plus industrialisés, le Baden-Württemberg, mais ils sont aussi partenaires dans plein de coalitions dans d'autres Länder. Et donc, en fait, cette expérience d'exercice du pouvoir n'était pas sans heurts non plus, mais en est résulté une vraie culture de gouvernement. Et c'est frappant parce qu'on a aussi l'impression, ce qui manque beaucoup aux Verts français, c'est une pensée structurée et un corpus en quelque sorte qui se forme. En Allemagne, c'est très frappant, les Verts ont leur propre fondation, la Heinrich-Böll-Stiftung, qui fait un formidable travail, ou qui organise des débats de fond. Et donc, on a vraiment l'impression, on le constate d'ailleurs, quand il y a des invités verts français, sans vouloir donner des noms, c'est frappant la différence de leur discours qui s'adapte un petit peu à l'ambiance actuelle, mais qui on sent très bien qu'il n'y a pas de profondeur de réflexion. Et donc en Allemagne, s'est établi tout un système autour de la pensée écologique. Alors il y a une très très grande différence et qui facilite quand même que les Verts aient maintenant une culture de gouvernement, c'est la relation à l'énergie nucléaire des partis gouvernementaux en Allemagne. Parce que ça, je pense, ça reste quand même un très grand souci pour les Verts français de ne pas avoir de partenaires dans le Parti socialiste suffisamment fiable sur cette question pour avoir effectivement une stratégie électorale cohérente, parce qu'ils sont en permanence obligé de dire, nous, on est pour une sortie du nucléaire, mais si on veut exercer le pouvoir, on s'adapte et finalement, on accepte le maintien du nucléaire. Ça a complètement changé en Allemagne, avec aussi le renversement des positions de la CDU, et ça a facilité justement la prise de pouvoir dans le Baden-Württemberg. Aujourd'hui, on a une coalition CDU vert, et donc, on se demande est-ce que c'est le précurseur de ce qui pourrait se passer en 2017 au niveau national. Est-ce que la chancelière Merkel va pouvoir rester au pouvoir en s'associant aux Verts? Ce n'est pas impossible parce que justement sur ce grand sujet, il y a maintenant une cohérence.
François Bujon de l'Étang.
J'écoute ce que dit Michaela sur la situation allemande avec beaucoup d'attention parce que le contraste me paraît considérable entre la situation allemande et la situation française. Et pour une raison claire, c'est que chez nous, apparemment, les écologistes ont une culture d'opposition, une volonté de témoignage, mais une culture d'opposition, alors qu'en Allemagne, ils ont une culture gestionnaire et ils ont une pratique du gouvernement. La pratique du gouvernement qu'ont eu certains de nos ministres verts est pour le moins mitigée, puisque certains ont quitté le gouvernement avec fracas, comme Madame Duflo. D'autres sont venus, au contraire, s'y adjoindre, mais en causant du fracas dans leur parti d'Europe Écologie Les Verts. Et tout ceci aboutit en France à cette situation un peu extravagante où l'un des leaders de ce qui reste du parti Europe Écologie Les Verts déclare aujourd'hui que EELV est un parti abîmé, je le cite entre guillemets, est un parti abîmé et assez balkanisé. J'imagine mal d'autres responsables, d'autres partis politiques faire le même aveu. Alors, Au fond, l'écologie politique en France aujourd'hui, ou l'écologie politicienne, je devrais dire, est une espèce de champ de ruines. Vous en avez donné les principaux éléments, Philippe, et elle donne l'image d'un très grand désarroi. Le désarroi, il est tactique, toujours. Qu'est-ce qu'il faut faire? Faut-il une candidature à la présidence? N'en faut-il pas? Faut-il aller chercher Monsieur Hulot ou pas? Faut-il s'allier avec le Parti Socialiste ou pas? Faut-il être au gouvernement ou pas? Ce sont toujours des préoccupations tactiques. Alors, comme c'est un sujet qu'au fond je connais assez mal, je vais poser une question qui est une question de Huron. Pourquoi faut-il qu'en France, le gauchisme soit la maladie infantile de l'écologie? Les préoccupations environnementales appartiennent à tout le monde et elles sont exprimées généralement dans tous les secteurs de l'opinion. D'ailleurs, la mobilisation qu'il y a eu récemment autour de la COP21 en France prouve bien que l'écologie n'appartient pas davantage à une idéologie qu'à une autre. Or, les écologistes français ont la tentation toujours de se positionner à gauche. Et autant que possible à gauche de la gauche, d'ailleurs, c'est ce qu'ils font. Alors je trouve tout à fait extraordinaire, d'ailleurs, cette cohabitation entre des Verts qui se positionnent à gauche du PS et les communistes, par exemple, qui sont ouvertement pro-nucléaires, alors que les Verts sont contre. Donc on est quand même dans une certaine incohérence. Et quand je regarde ailleurs, à l'étranger, je vois que c'est complètement différent. En Allemagne, vous avez effectivement les Verts qui non seulement font partie de la coalition, mais donnent le ton des coalitions, en Bade-Württemberg, par exemple, et qui sont peut-être, en effet, l'avant-garde de ce qui va se passer au niveau fédéral ou de ce qui pourrait se passer au niveau fédéral. Je vois un ministre-président très estimé au Bade-Württemberg qui est vert. Je ne conçois rien de tel en France. Et aux États-Unis, pays où j'ai vécu longtemps, je vois qu'un certain nombre de sénateurs ont défendu des idées écologiques. Certains sont républicains, d'autres sont démocrates. Et le plus grand des porte-parole de l'écologie aux États-Unis a été le vice-président Gore. On est dans une culture quand même qui est complètement, complètement différente. Et chez nous, une culture marginale. Alors je pense que c'est cette espèce de maladie infantile, au fond, pour reprendre un mot bien connu dans la description des idéologies, qui explique très largement la difficulté qu'éprouvent les Verts dans leur positionnement politique et du coup dans la recherche d'une unité qui les fuit toujours.
Jean-Louis Bourlange.
Oui, moi je suis très sensible à ce qu'a dit Thierry sur l'importance idéologique du combat écologique. Je crois effectivement, je ne sais pas si c'est une idée neuve, mais c'est en tout cas une idée absolument fondamentale. Si on ramène les idéologies qui dominent le temps présent, elles sont de trois ordres. Elles sont anthropothéistes, c'est-à-dire les capitalistes et les socialistes qui considèrent dans la postérité de Descartes que l'homme est maître et possesseur de la nature. Et tout doit être soumis à la dictature de l'homme, et ça développe des idéologies de la croissance, avec tous les effets pervers que l'on voit en matière de dévastation de notre environnement. Je n'énonce pas plus longtemps les dommages, ils sont très clairs. Donc on a ça, et ça c'est quelque chose de partagé par la droite croissanciste et la gauche croissanciste. De ce point de vue-là, ce qu'a écrit Michel Foucault, ou Althusser d'ailleurs, sur le caractère fondamental de l'analyse de Ricardo, vous savez, Aron se moquait de Michel Foucault en disant, quand Michel Foucault dit que il n'y a aucune différence entre Marx et Ricardo, parce que ils ont la même conception de la plus-value, et leur querelle, dit Michel Foucault, ne sont que rides au bassin enfant. Et Aron dit ride à la surface d'un immense talent quand on voit les millions de morts, les dizaines de millions de morts qui sont le résultat de ce schisme. Enfin, il y a effectivement une solidarité profonde. Deuxièmement, il y a le monothéisme. Il y a l'idée que l'ordre est fait par Dieu. Et le compromis, c'est que l'ordre c'est une harmonie, c'est un jardin, c'est une conception créationniste au bout du compte. Là, c'est pas darwinien. La création nous est donnée comme un tout, et dans ce tout, effectivement, l'homme exerce, c'est là le compromis avec les premiers, exerce une position dominante. Et troisièmement, je pense que d'une certaine façon, je sollicite un peu les mots. L'écologie, c'est un panthéisme, c'est-à-dire c'est l'idée que ce qui compte, c'est la nature dans son ensemble, que Dieu est partout et qu'il faut trouver une harmonie profonde entre l'homme et la nature. Ces trois idées sont centrales dans la représentation que nous avons des choses. Et la troisième, Thierry, est aussi importante dans l'esprit des gens que les deux autres, même s'ils ne s'en rendent pas compte, parce que quand on entend Madame Duflot parler d'écologie, on a du mal à se représenter les conséquences effectives de son message sur des préoccupations qui sont là, très profondes chez les gens, comme la météo, l'alimentation, la fin des ressources naturelles. Mais ces trois idées sont dominantes. Et alors, ça devrait conduire à quoi? Ça devrait conduire les écologistes exactement à avoir l'attitude qu'ont les écologistes allemands. Et je suis tout à fait d'accord avec ce qu'ont dit Michaela et François à ce sujet. J'ai dialogué récemment avec le secrétaire général de la fondation Heinrich Böll. C'est un homme avec lequel je suis vraiment en profonde connivence. Thierry a dit que j'étais en profonde connivence avec le nouveau président de la République d'Autriche. Pourquoi? Parce que en réalité,
j'ai dit Jean-Louis que Alexandre van der Bellen était un Jean-Louis Bourlange qui mangerait bio.
Oui,
c'était ça.
Oui, enfin, je peux mettre un peu à mur, quand ils ont pas trop d'insectes, c'est tout. Mais la réalité, c'est qu'effectivement, pour que ça s'affirme, il faut une théorie du compromis. Et entre ces trois idéologies, il faut avoir, on va pas tout à coup décréter que ce sont les lions qui mangent les hommes et les loups qui dévorent les bergers. Ça n'est pas possible de renverser le règne. On va pas non plus renoncer à la croissance, au développement économique. En tout cas, c'est pas. Et quant à la fidélité religieuse, on ne va pas. C'est quand même tout à fait contraire à tout ce que nous pensons de se lancer dans un intégrisme complet ou de le refuser complètement. Donc, il est évident que les écologistes sont contraints. Et ce qu'on voit dans le comportement, c'est que tout en eux nie cette capacité, cette volonté à faire des compromis avec les deux grandes forces idéologiques, et qu'ils oscillent en permanence entre un radicalisme qui les perd. Car ce radicalisme, il ne peut, compte tenu de l'endroit où ils sont, il ne peut s'orienter vers deux choses. La solidarité avec des croissancistes intégraux comme Mélenchon, le schisteux Mélenchon, l'homme qui est pour l'exploitation des gaz de schiste, ou alors avec l'intégrisme djihadiste qui a l'avantage d'être révolutionnaire. Eh bien non, l'autre attitude, c'est, à défaut de radicalisme, l'opportunisme intégral. On est à la remorque de qui nous donne des places. Et entre ce radicalisme qui nie profondément toute possibilité de synthèse et un opportunisme qui est dénué de toute dignité, les écologistes en sont là où ils en sont.
Il me semble que l'opportunisme intégral a gagné beaucoup de terrain dans l'écologie politique ces dernières années. Si on se souvient de René Dumont, au fond, c'est autour de René Dumont que l'idée que l'écologie devait entrer dans la politique s'est cristallisée. Alors Dumont n'était peut-être pas l'homme le plus doué pour faire de la politique, mais il parlait d'écologie. Et il ne cherchait pas de place. D'ailleurs, il n'en a pas eu. Par contre, l'école de cynisme la plus évidente me paraît être les différents partis qui ont fini par composer Europe Écologie Les Verts, avec en plus un grand talent de manipulation de la part. On entre chez Europe Écologie des Verts parce qu'on trouve que c'est bouché du côté du Parti Socialiste et qu'on n'a pas réussi à s'y faire une place. Et en effet, on se vend, et on se vend assez bien. Et il faut dire aussi qu'il y a des acheteurs, que Mme Aubry a acheté très très cher un parti qui ne valait rien. C'est-à-dire qu'elle a...
Elle a acheté
très cher un parti qui, électoralement, ne valait rien, puisque Mme Joly venait de faire le mirobolant score à la présidentielle conseil. Donc, voilà, entre le trotskisme et l'écologisme me paraît être les deux écoles de cynisme et d'opportunisme les plus raisonnables. Avec, du côté des trotskistes, un avantage, c'est qu'il existe quand même, depuis maintenant assez longtemps et assez bien implanté, un trotskisme à but lucratif qui s'épanouit, par exemple, dans la communication, pas seulement, mais enfin, qui s'épanouit bien et qui fait que, mon Dieu, je pense qu'il vaut peut-être mieux conseiller à ses enfants d'être trotskistes qu'écologistes si on veut qu'ils deviennent riches et puissants.
Alors, je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous, Philippe, lorsque vous dites que ça ne valait rien.
Électoralement, ça ne valait rien.
Vous vous trompez. Dans un paysage politique aussi fragmenté, où il est aussi incertain de se qualifier au deuxième tour de la présidentielle qu'est l'élection reine, même 4%, c'est un pouvoir de nuisance considérable. Ça vaut quelque chose. Et le PS a besoin d'avoir des alliés, de la même façon que le leader de la droite aura besoin d'avoir des alliés. Et ils ne seront pas forcément plus fréquentables, ils le seront probablement moins d'ailleurs. Alors, je laisse ça de côté. Sur l'Allemagne, un point que vous ne semblez pas avoir entendu, François, c'est que la question nucléaire a été centrale dans la possibilité de faire des compromis et d'entrer dans la culture de gouvernement pour les Verts, que ce soit avec la droite ou avec la gauche. Cette question en France se pose dans des termes absolument différents. Il a fallu, pour que la situation des Grünen soit celle qu'on observe aujourd'hui, que l'Allemagne tourne le dos à l'énergie nucléaire et d'une façon très unilatérale, qui a parfois d'ailleurs déconcerté ses voisins. Je ne suis pas sûr que vous loueriez vous-même ce type de volte-face sur le nucléaire.
L'écologiste lui-même est froissé.
Mais le débat central, c'est le débat sur la nature idéologique de l'écologie politique. François nous dit, on a le droit d'être écologiste dans toutes les formations, il n'y a pas de spécificité, il n'y a pas de géométrie politique de ces idées. Et Jean-Louis nous dit, si, il y en a une, c'est une espèce de troisième voie entre l'anthropothéisme, le monothéisme. Bon. Moi, je poserai le problème d'une façon assez différente. Effectivement, vous avez raison, Philippe, Dumont a été un des fondateurs. En France, en Allemagne, les réflexions de Jonas, puis de Beck, de gens comme ça, ont assis l'écologie politique d'une autre façon. Mais dans les deux cas, il y a deux facteurs qui placent l'écologie politique beaucoup plus proche de la gauche que de la droite. Vous avez raison, Jean-Louis, il y a des croissancistes des deux côtés. Mais le rapport au marché est un rapport nécessairement critique dans la pensée écologique, qui la place assez loin des courants libéraux, si tant est que ceux-ci soient vraiment représentés dans la vie politique française. C'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que les inégalités environnementales sont des inégalités qui frappent d'abord les plus faibles. Et je pense qu'il y a une vocation de l'écologie politique à être de gauche. D'ailleurs, Al Gore, qui est un des représentants américains les plus vigoureux sur ces questions, est un démocrate, n'est pas un républicain. Donc il peut y avoir une écologie accessoire supplément d'âme dans les partis de droite, mais l'idée écologique est très inhospitalière aux idées portées par la droite.
Jean-Louis Bourlange.
Je ne crois pas du tout que ce soit vrai sur ce point, sur ce dernier point, parce que je pense d'abord que le libéralisme est une philosophie. Hein. Il faut distinguer la droite et la gauche, je ne sais pas très bien ce que c'est, mais le libéralisme et l'économie de marché, puisque vous avez évoqué ça, ce sont des valeurs de gauche. Tant qu'on n'aura pas compris en France que, comme aux États-Unis, on l'a compris, qu'il suffit d'écouter Trump, qui n'est pas libéral, pour s'en persuader que le capitalisme est oligarchique, cartélisateur, monopolistique et n'est pas libéral, et que l'économie de marché est la condition, pas suffisante, mais nécessaire d'une démocratie décentralisée qui reconnaît l'autonomie du sujet, l'autonomie des personnes, on n'avancera pas. Ce que je simplement voulais dire, que le contre-exemple de ce que font les écologistes aujourd'hui, il est fourni par une personnalité avec laquelle j'ai vraiment beaucoup aimé travailler au Parlement européen pendant les années où nous étions ensemble, qui est Daniel Cohn-Bendit. Daniel Cohn-Bendit est exactement le contraire, le comportement exactement opposé à celui que j'ai stigmatisé. Il est à la fois favorable au compromis, notamment au compromis libéral. Et il disait l'autre jour à France Culture, où son interlocuteur était un peu gêné, que le libéralisme, ça se prenait sous sa forme culturelle, sous sa forme politique et sous sa forme économique, ce qui n'excluait pas évidemment de la régulation pour rendre cette liberté réelle, ça c'est évident. Et deuxièmement, il est donc favorable au compromis, et il est également, favorable, oui, mais la droite française est favorable à la régulation. Si vous croyez que la droite française est ultra-libérale, vous vous faites de cette droite une idée assez particulière. Et deuxièmement, il est hostile, en revanche, à toute forme d'opportunisme, et il l'a démontré dans sa vie. Donc il a exactement les comportements d'ouverture intellectuelle et de dignité politique qui sont opposés à ceux des écologistes actuels.
Michael Avigal.
Oui, alors effectivement, je pense c'est très important ce que vous venez de dire, Jean-Louis et Thierry. Et je pense d'ailleurs, c'est pour ça, l'expérience au Baden-Württemberg est presque plus intéressante que la coalition Schröder-Fischer à l'époque, parce que là, on est au cœur de la question comment un ministre-président vert gère un land qui très très fortement industrialisé. Vous savez qu'il y a l'industrie automobile, mais il y a aussi beaucoup beaucoup de ce qu'on appelle le Mittelstand, ces moyennes entreprises fortement exportatrices. Et ce qu'il est intéressant, c'est qu'ils sont en train de résoudre ce conflit éternel sur justement la relation des écologistes au marché, en voyant que tout le marché du renouvelable, mais dans le sens large, c'est-à-dire les économies d'énergie, comment on peut produire dans l'industrie automobile pour les appareils, les machines, outils, comment en produire de façon à utiliser moins d'énergie. Ça, c'est un marché porteur. Et ils ont beaucoup, beaucoup investi dans ce marché. Et donc, c'est pour ça aussi la Fondation Heinrich Böll a un rôle important à jouer parce qu'ils évaluent en temps réel, en quelque sorte, comment ça se passe. Et donc, c'est tout le pari de ce qu'on a appelé la transition énergétique, parce que, bien sûr, la majorité des entreprises, on vient de le dire, n'étaient pas contents quand ils ont la deuxième sortie du nucléaire, parce que la première, elle a été négociée, elle était en étape, mais là, la deuxième, Angela Merkel, elle était très, très rapide et brutale. Ils n'étaient pas contents, mais ils s'adaptent à un environnement qui change et donc du coup ils cherchent, ils sont preneurs des solutions, comment ils peuvent avec une énergie qui devient de plus en plus chère, pour en Allemagne c'est pas un secret, l'industrie a des prix d'énergie beaucoup plus chers qu'en France, comment on peut s'adapter. Donc c'est une expérience très très intéressante et à poursuivre maintenant avec le deuxième mandat de Winfried Kretschmann.
Merci. Je vous propose que nous passions maintenant à la situation politique, économique et sociale au Venezuela. Depuis plusieurs mois, ce pays traverse une crise. Elle s'est accentuée ces derniers jours et le pays paraît au bord de l'implosion. Jeudi, une réunion devait se tenir entre les représentants de la Table de l'Unité démocratique, la coalition d'opposition majoritaire au Parlement depuis décembre dernier, et le Conseil national électoral, en vue de valider les signatures recueillies et présentées par les anti-chavistes en faveur d'un référendum destiné à révoquer l'actuel président Nicolas Maduro. Cette réunion a été annulée par les autorités. Déjà atteinte par la crise pétrolière de 2014, l'économie vénézuélienne, dont 96% des revenus sont tirés de l'or noir, s'est effondrée avec la récente chute des cours. Selon le FMI, ses revenus sont passés de 80 milliards en 2013 à 25 milliards en 2015. En réaction, la Banque centrale du pays a créé de la monnaie et l'inflation, déjà à 180% en 2015, pourrait atteindre 700% cette année. Nationalisé depuis 2007, le secteur électrique du Venezuela n'a plus les infrastructures nécessaires pour assurer la production nationale. De nombreuses organisations dénoncent le manque d'investissement et d'entretien de l'État dans ce secteur, tandis que Nicolas Maduro parle de son côté de tragédie environnementale. Pour économiser l'électricité, le gouvernement a ordonné aux fonctionnaires de ne plus travailler que 2 jours par semaine. Il a établi un changement de fuseau horaire de 30 minutes et l'électricité est coupée 4 heures par jour pendant 40 jours dans les 10 États les plus peuplés. Dans un contexte où le pays doit tout importer, le Venezuela subit depuis des mois de graves pénuries des biens de première nécessité qui sont aussi chers que rares et qui s'accompagnent de pillages, de commerces et de lynchages. En avril, un sondage du Miami Herald rapportait que seulement 54% des personnes interrogées mangeaient 3 repas par jour. À cela s'ajoute une crise sanitaire provoquée par le manque de médicaments et un matériel hospitalier sans arrêt en panne, situation à laquelle le gouvernement ne parvient pas à pallier. Mi-mai, des milliers de personnes ont manifesté dans tout le pays répondant à l'appel de l'opposition pour réclamer un référendum révocatoire. Parallèlement, le président Maduro a décrété l'état d'exception, attribuant ainsi des pouvoirs spéciaux aux militaires, pouvoirs qu'il menace de renforcer pour faire face aux nouvelles manifestations. L'Observatoire vénézuélien de la conflictualité sociale a décompté en moyenne 18 manifestations par jour au cours des 4 premiers mois de l'année. Le référendum révocatoire n'a été utilisé qu'une fois dans l'histoire du pays, contre l'ancien président Hugo Chavez, et cette tentative a échoué. Aujourd'hui, 7 Vénézuéliens sur 10 sont en faveur du départ de Nicolas Maduro. Sur cette question, François Bujon de l'Étang.
Oui, alors ce que vous venez de décrire, c'est une crise tout à fait extraordinaire, parce que c'est une crise qui est à la fois politique, économique, financière, morale, et c'est une crise dont on ne sait pas du tout comment elle va se terminer, d'ailleurs, puisque, au fond, le président Maduro n'a pas la moindre intention d'abandonner le pouvoir, il va se battre, et que l'opposition elle-même est unie dans son opposition contre lui, dans son opposition à lui, mais divisée sur ce que l'on recherche. Une partie de l'opposition est plutôt légaliste et voudrait s'en tenir aux procédures constitutionnelles. L'autre ne reculerait pas devant la force si nécessaire. Donc, personne ne sait comment tout ceci va se terminer, ni si la situation ne va pas simplement durer et empirer. Alors, ce que le Venezuela, c'est un cas assez pathétique de naufrage complet d'un État. Et d'un État riche, d'un État bien doté, d'un État pétrolier, encore une fois. C'est une Amérique latine un peu particulière, c'est l'Amérique latine caraïbe, qui est très très difficile, très différente de l'Amérique latine andine ou du cône sud. Mais ce cas mérite qu'on s'y arrête, parce que ce n'est pas ce qu'on appelle un failed state, ou un État failli à proprement parler, dans la mesure où les institutions existent, où il y a une société civile, il y a une classe moyenne. Mais c'est un État qui arrive à la faillite, parce qu'il fait une faillite à la fois économique et morale. Je dis morale parce qu'il y a eu, enfin c'est un cas aussi d'une société, d'un système terriblement corrompu. L'État, depuis quelques années, a donné l'exemple d'une gestion absolument désastreuse. Il s'est hypertrophié, il a nationalisé tout ce qu'il pouvait, avec l'idée, bien entendu, de canaliser les ressources nationales pour financer les programmes sociaux et venir en aide aux classes défavorisées. Ça, c'est une chose. Mais c'est aussi un État qui souffre de ce qu'on appelle, d'ailleurs, curieusement, le mal hollandais. Je dis que les pauvres Hollandais, ils sont quand même capables de faire autre chose que de produire du gaz. Et je trouve qu'on ne leur rend pas justice en parlant du cas hollandais. Mais c'est l'usage, ils ont aussi des tulipes, comme vous le dites, et beaucoup d'autres choses. Mais c'est le cas typique d'un État qui vit d'une monoculture pétrolière, hydrocarbures. 96% des recettes de l'État aujourd'hui viennent du pétrole. Et c'est un État qui importe tout et qui ne produit rien en dehors du pétrole. Donc c'est un modèle économique qui n'est pas soutenable, et on le voit sous d'autres latitudes d'ailleurs, parce que on peut s'amuser à faire des analogies avec la Russie par exemple, sur le plan économique, puisque la Russie c'est un géant beaucoup plus complet par ailleurs. Mais voilà, ce pays pétrolier par ailleurs entretient une relation complètement névrotique avec les États-Unis d'Amérique, puisque Monsieur Chavez et ses partisans considèrent les États-Unis comme, on dirait sous d'autres latitudes, comme le grand Satan, et qu'en même temps, le Venezuela a été pendant très longtemps, et encore jusqu'à des temps très récents, le premier fournisseur de pétrole des États-Unis. C'est quand même tout à fait paradoxal. Alors, M. Chavez est un personnage hors norme, tout à fait extraordinaire, parce qu'il mélange plusieurs composantes, en quelque sorte. C'est un populiste de gauche, c'est un militaire en même temps. Il est arrivé au pouvoir en Amérique latine par les méthodes traditionnelles des militaires. Il a professé un populisme de gauche qui lui vaut jusqu'à aujourd'hui, post-mortem, une très grande popularité. Il est très intéressant de voir que quand il y a une élection au Venezuela, et elles sont relativement libres quand elles ont lieu, même lorsque l'opposition gagne au Parlement une forte majorité, comme ça a été le cas en janvier dernier, Chavez et le Chavis représentent toujours pas très loin de 50% au fond des votes et de 50% de l'opinion. Tout le monde se souvient de Chavez, de ses excès, de son art oratoire dans lequel il aimait à concurrencer Fidel Castro, y compris jusque dans la longueur de ses interventions. Il avait une émission spéciale à la radio tous les dimanches matins, comme l'Esprit public, mais qui s'appelait Allo Presidente, dans lequel tout auditeur était libre de lui poser des questions.
Voilà, et peu de choses vont pouvoir l'arrêter.
Absolument. Absolument. Mais alors, Philippe, je vous mets en garde parce que Chavez est également tombé victime d'une dérive autoritaire qui l'a entraîné.
Il est tombé mort, surtout.
Il est mort de maladie et de mort naturelle, mais il a été victime d'une espèce de dérive autoritaire, comme nous en voyons d'autres exemples plus près de nous.
J'y compte bien.
Cette idée louable de chercher à utiliser les ressources de l'État pour financer des programmes sociaux a donné des résultats mitigés. En un sens, cette révolution bolivarienne, comme on l'appelait, a marché. Elle a tiré des millions de gens de la pauvreté. Mais dans un autre, elle a emmené l'État à la faillite et à une corruption généralisée, puisque des milliards et des milliards ont disparu dans des sociétés tout à fait bizarres. Ce qui fait qu'aujourd'hui, l'État est déconsidéré, il est en faillite, il vit une économie de pénurie et les Vénézuéliens ne peuvent plus se nourrir.
Thierry Pêche.
Oui, il faut reconnaître que le Venezuela, dans un état de panique politique, économique, morale, absolument incroyable. Hein. Je pense qu'il faut remonter à la fin des années 80 pour trouver ce type de situation. C'est aujourd'hui le pays qui a la plus forte inflation au monde. Il frise 200% en 2015. C'est le FMI qui annonce 700% l'année prochaine.
C'est fou.
Donc, moi, j'ai connu autrefois des situations d'hyperinflation en Amérique latine et je mesure la panique qui s'empare d'une société lorsque ce qu'on appelle la monnaie, mais qui a pour synonyme la confiance, se retire des échanges entre les gens. Il y a le dollar. Il y a le dollar. Et le dollar au marché noir. Il y a la contrebande. Il y a la mafia. Il y a le contraire de l'état de droit partout. Donc c'est ça qui est en train de monter, de pousser au Venezuela. Alors, deux commentaires par rapport à ce qu'a dit François. Le mal hollandais. Effectivement, il n'y a pas de proportion entre la monoculture pétrolière du Venezuela et la diversité de l'économie hollandaise qui va du gaz aux tulipes, mais en passant par beaucoup d'autres choses, dont certains fromages et de la technologie. Mais pourquoi les économistes ont parlé de mal hollandais ? Parce que les Hollandais se sont aperçus d'un paradoxe. C'est que lorsque vous avez en abondance une matière première que vous pouvez exporter, vous avez énormément de devises et à ce moment-là, c'est économiquement rationnel de préférer l'importation à l'investissement dans votre outil productif. C'est pour ça qu'on appelle ça mal hollandais. C'est que on a compris à ce moment-là le caractère toxique de ce qui était a priori une bonne nouvelle. C'est que vous n'avez plus intérêt à investir sur votre sol, dans votre propre économie. Et c'est ce qui se passe au Venezuela à beaucoup plus grande échelle. Le Venezuela, pendant des années, sous Chavez et avant de Chavez, à chaque fois que le pétrole avait des cours haussiers et des niveaux vraiment élevés, eh bien le Venezuela n'avait pas intérêt à investir dans le Venezuela. Il avait juste intérêt à acheter tout dehors, jusqu'à la farine, au malt et aux produits de première nécessité. Un mot sur quelque chose que n'a pas dit François, mais sur lequel je suis sûr il me rejoindra, c'est que le chavisme, c'est d'abord le résultat d'une société quasi post-féodale. Et il faut quand même se souvenir que lorsque les mouvements indigénistes ont poussé en Amérique latine, que ce soit dans la zone caribéenne ou un petit peu plus au sud, dans les années 90, c'est-à-dire au moment du virage démocratique de l'Amérique latine, ils ont été poussés d'abord par des sociétés extrêmement inégalitaires où le système des latifundias faisait des écarts considérables de fortune et de destin entre les gens. Et Chavez, qui se présentait comme l'Indien de Barinas, a joué une carte indigéniste. Il a joué une carte de couleur de peau, contre une élite qui était blanche, effectivement, qui était l'élite favorite des Américains. Et ça, c'est encore là.
Michael Avigal.
Oui, j'espère que je peux commencer par une remarque un peu plus personnelle. En fait, j'étais submergée de demandes de décrire le chaos français, le début de la fin des grèves, l'insurrection en France quand je me suis plongée dans la préparation et dans des papiers sur le Venezuela. Et je dois dire, pour une fois, la comparaison m'a beaucoup rassurée et j'ai pu refuser pas mal de demandes pour dire finalement en France la situation n'est pas aussi dramatique. Alors effectivement on a l'impression que cette expérimentation Chavez qui avait quand même été un symbole pour le reste de l'Amérique latine et notamment pour le rapport qu'entretenaient plusieurs pays ou surtout plusieurs parties dont ces pays aux États-Unis où Hugo Chavez était quand même le symbole qui incarnait la possibilité d'une autre voie, en quelque sorte, on voit très bien que cette possibilité aujourd'hui, même si Thierry l'a dit, François aussi, même si Chavez lui-même, la personne, reste très très populaire, cette expérience, elle a échoué et dans des proportions dramatiques, et donc effectivement, on a l'impression qu'on peut presque généraliser que dans les États pétroliers, et là je pense plutôt aussi au Golfe Persique, des pays qui dépendent d'une façon exorbitant du pétrole, on voit très bien qu'il y a une tendance à négliger absolument les investissements dans le pays et ils ont des économies qui, au moment où le... Et on le voit très bien aussi se dessiner, même dans des proportions tout à fait différentes, bien sûr, mais dans le Golfe Persique, on est quand même frappé par les résultats du prix du pétrole très bas et qui pose un problème. Maintenant, qui commence à poser un problème de stabilité politique.
Jean-Louis Bourlange.
Oui, effectivement, on voit bien que le Venezuela est à la rencontre de deux pathologies précises. Une pathologie qui est celle de l'enfant gâté, ou dit mal hollandais, et je crois qu'effectivement, cette pathologie a à la fois un fondement moral, c'est-à-dire à quoi ça sert de travailler puisqu'on a l'argent, puisque tout nous est tombé du ciel, et deuxièmement, un fondement économique rationnel, qui est celui qu'a rappelé Thierry, à savoir à quoi sert de produire, puisqu'il suffit d'importer. Donc, on a ça. Et puis, jumelé à ça, aussi important, sinon, on a toute la pathologie de l'illusion lyrique du radicalisme révolutionnaire. Et là, c'est vraiment un cas d'école. Par rapport au Brésil, où il y a certes des problèmes importants de corruption qui ont terni l'image de la révolution de l'épisode luliste, moi, j'ai toujours dit, ma devise, c'était Lula si, Chavez no. Et je crois que là, on a des problèmes. Mais malgré tout, Lula est précisément celui qui a su faire coïncider une revendication sociale avec le respect d'un certain nombre de règles. Chavez, pas du tout. Il s'est embarqué dans un radicalisme, d'ailleurs radicalisme idéologiquement composite, à la fois christo-marxiste, on pourrait dire, et on a eu les quatre pathologies, la paranoïa, le délire paranoïaque, tout échec est imputable aux Américains, la corruption dans un système qui n'est pas régulé en aucune façon par le marché, la corruption et la tentation naturelle de l'impuissance administrative, on ne gouverne pas une économie compliquée, une société compliquée à partir avec des décrets. Et enfin, la dernière, une dérive autoritaire très impressionnante. Je rappelle que Jean-Luc Mélenchon, faisant l'éloge de la démocratie chaviste, disait « Ils ont inventé le référendum révocatoire, le référendum qui permet de renvoyer le président de la République. » On voit bien que même ça échoue, puisque, alors que l'opposition a recueilli un nombre impressionnant de voix, par les moyens tout à fait frauduleux, qui sont la manipulation d'un tribunal aux ordres, Chavez refuse le référendum révocatoire qui, effectivement, le ferait partir.
Maduro, pardon, excusez-moi,
c'est Maduro quand même une version aggravée du précédent. Alors, là où je suis, je nuancerai quand même, je crois effectivement, comme l'a suggéré Thierry, qu'il y a quelque chose de très impressionnant, parce que un échec aussi calamiteux, qui se traduit quand même par la permanence d'une certaine popularité rétrospective pour Chavez, et c'est quand même quelque chose qui, et ça tient au fait que Chavez a quand même brisé quelque chose d'important, qui est si je puis dire, le monopole de l'oligarchie, le monopole dans le débat public, dans le contrôle de la société, dans le contrôle politique. Il a fait rentrer les masses, il a fait rentrer les Indiens, enfin il a fait rentrer tout un ensemble d'acteurs qui d'ailleurs ne savent pas qui faire, sont très très mal armés pour régler ce problème. Et donc il y a la volonté qui est très impressionnante de ne pas retourner en arrière. Alors parmi les leaders de l'opposition, je ne sais pas ce qu'ils valent exactement. Je trouve que M. Capriles, qui a été candidat contre Chavez et contre Maduro, est un homme qui paraît avoir compris tout cela. Je ne sais pas à ce que valent les... On a trois hommes. On a Alup qui représente vraiment la tradition, et puis Torrealba qui représente une sorte de passage d'un marxisme à l'opposition, et Capriles au milieu de tout ça. Mais il est essentiel pour que ça aboutisse bien que cette revendication démocratique qu'a portée et dévoyée Chavez soit assumée par l'opposition.
François Bujon de l'Étang.
Oui, alors la grande question reste de savoir si le scénario vénézuélien va bien s'inscrire dans le tableau général de l'Amérique latine ou va confirmer décidément que le Venezuela est un cas très très sui generis. En un sens, les malheurs du populisme de Chavez à la Chavez rejoignent la fin des populismes de gauche en Amérique latine. Ils s'inscrivent dans un mouvement plus général. Mais à l'inverse, je m'inquiète, vous venez de passer en revue les qualités et les défauts des principaux leaders de l'opposition. position, mais il n'est pas dit que ce soit eux qui aient le dernier mot. Est-ce que le Venezuela va s'inscrire aussi dans ce grand mouvement démocratique qui fait qu'on s'éloigne de l'époque des pronunciamientos, ou est-ce que l'armée, qui est en position d'arbitre, va finir par mettre, par siffler la fin de la récréation, si j'ose dire?
Je vous remercie. Avant de passer au bref, il faut donc que je rappelle que nous sommes la semaine prochaine en direct et en public, et que quiconque veut nous faire le plaisir de venir nous entendre en direct peut s'inscrire sur le site maisondelaradiosansséparation.fr. J'ouvrirai la séquence des brefs en recommandant très chaudement un roman turc de Alan Gunday, G-U-N-D-A-Y, qui s'appelle Topaz, T-O-P-A-Z, et qui est aux éditions Galahad. C'est un roman, si on veut attirer l'attention sur lui, il y a plusieurs chemins possibles. Je prendrai celui de dire que c'est d'abord le roman d'une arnaque. Et comme toutes les arnaques, évidemment, c'est un roman à surprise. Et dès le début, on pense qu'on est dans le roman d'une arnaque, sauf que c'est peut-être pas l'arnaque dans laquelle on est que celle que l'on nous montre. Et puis, et de mon point de vue surtout, cette forme romanesque très bien maîtrisée est l'occasion d'une description du tourisme, et du tourisme en Turquie, et du tourisme plus particulièrement à Antalya, qui est absolument effrayante, mais qui est si bien documentée, si précise, si minutieuse, qu'elle est, je dirais, irrésistible, et que chacun en tirera les conclusions qu'il veut en tirer, mais qu'en tout cas, cette activité si importante dans nos économies ne semble pas être de nature à respecter ni la planète, ni les gens qui y habitent, et particulièrement les plus pauvres d'entre eux. C'est d'ailleurs une activité telle qu'elle est décrite par Hakan Gunday, qui manifestement la connaît bien, dans laquelle tout le monde s'abîme, au sens de se salir. Ça s'appelle donc Topaz, T-O-P-A-Z, et c'est aux éditions Galahad. Jean-Louis Bourlange.
Oui, je voudrais faire part d'un choc, vraiment d'un choc psychologique que j'ai ressenti. À la différence de ma femme qui était fan de haute couture, je n'ai jamais été très fasciné par la haute couture, je m'en suis jamais beaucoup intéressé, et j'ai vu par hasard ce documentaire qui était paru par TF1, qui est un film de Dominica, qui s'appelait « L'élégance du paradis perdu » et qui est consacré à Christian Dior. Et j'ai vraiment eu un choc, d'abord parce que j'ai trouvé admirable toute l'épopée Dior, qui est une épopée brévissime. Le New Look apparaît en 47, Dior est un inconnu avant, et il meurt en 57. Et entre-temps, il a transformé la haute couture en France et a réaffirmé la France comme capitale des élégances mondiales. C'est quelque chose d'extraordinaire. Mais au-delà de cette aventure industrielle, j'ai effectivement compris, enfin senti en tout cas, que Dior était dans son domaine l'équivalent de Marcel Proust. C'était vraiment quelqu'un qui faisait une révolution de nature comparable, avec les mêmes ingrédients d'ailleurs. La fidélité à l'enfance, c'est un film qui est centré sur le poids de Granville, et on pense à Proust, l'essence précieuse qui échafaude l'édifice immense du souvenir, qui est centré sur le souvenir de sa mère, sur le souvenir des motifs esthétiques de l'art nouveau, notamment les motifs floraux qui jouent un rôle très important auquel tous ses successeurs resteront sensibles. Et donc on a quelqu'un qui arrive à faire à la fois une révolution industrielle, une révolution esthétique, reposant sur une représentation de la femme idéalisée, le contraire. En réalité, mais c'est la femme en représentation, le contraire de la femme d'action qui a été le moteur de l'entreprise Chanel. Et j'en profite pour signaler un livre que je me reproche de ne pas avoir signalé, qui est le livre de notre ami Jean Lebrun, Notre Chanel, qui est un ouvrage qu'il a écrit en souvenir de son ami disparu à 35 ans, Bernard Costa, avec lequel il avait envisagé de faire ce livre, et il a réalisé cette espèce de road movie, biographie de Chanel, qui est l'autre visage de la haute couture française.
Thierry Pêche.
Pour préparer l'émission sur le Venezuela, je me suis replongé dans un livre paru au milieu des années 2000, qui a eu aucun succès en France, mais qui a été un grand succès dans beaucoup de pays, qui s'appelle Le Monde en Feu, d'Amy Chua. Amy Chua est une juriste qui s'est intéressée, pour des raisons d'ailleurs autobiographique aux violences ethniques qui ont émaillé les années 90. Et elle y a vu l'expression de ce qu'elle appelle la démocratie de marché, c'est-à-dire une caricature du marché totalement dérégulé et de la démocratie réduite au pouvoir des majorités. Et ce cocktail, dit-elle, dans bien des pays, que ce soit en Asie, en Amérique latine, etc., a donné la démocratie beaucoup de pouvoir aux majorités appauvries et le marché beaucoup de pouvoir aux minorités riches. La démocratie de marché s'est avérée finalement un outil de conflagration dans beaucoup de pays entre ces majorités et ces minorités.
François Bujon de l'Étang.
Et une fois n'est pas coutume, et avec votre indulgence, j'emprunterai cette fois-ci ma brève simplement à l'actualité et l'actualité internationale, parce que dans le tohu-bohu de l'actualité, on a trop vite passé, au profit des pertes, la visite du président Obama à Hiroshima. Et je trouve que c'est quand même un événement qui interpelle, que le président des États-Unis se rende à Hiroshima, quelques jours d'ailleurs après être allé à Hanoï, avec un capital d'un pays avec lequel les États-Unis ont été longuement en guerre, interpelle. Je trouve que c'est quelque chose. Il y est allé, non pas du tout pour faire de la contrition, comme trop souvent à la mode, mais simplement avec compassion, ce qui est une autre démarche. Il y est allé pour tourner une page. Et au fond, Obama, si on se souvient du grand discours de Philadelphie, Delphi qu'il avait fait au moment de sa campagne en 2008, est un homme qui se situe non pas dans le conflit, mais toujours dans l'après-conflit, dans la réconciliation. Et en allant à Cuba, comme il l'a fait il y a quelque temps, en allant à Hanoï, comme il l'a fait très très récemment, en allant aujourd'hui à Hiroshima, il se situe dans cette démarche tout à fait extraordinaire et qui mérite, je trouve, qu'on s'y arrête. Il va finir décidément par mériter son prix Nobel de la paix. Et nous le regretterons.
Michaela Wiegel.
Oui, moi aussi, il s'agit de paix, mais surtout de guerre. En fait, je voulais signaler la parution du premier livre d'historien commun franco-allemand sur la bataille de Verdun. C'est vraiment un excellent ouvrage intitulé Verdun 1916, une bataille de légende vue des deux côtés, qui est paru chez Talendier, de l'historien allemand Gerd Kromeich et de l'historien français Antoine Prost. Et c'est vraiment un ouvrage qu'ils ont écrit ensemble. D'ailleurs, ils sont à l'origine aussi de l'exposition dans l'exceptionnel mémorial de Verdun, qui a été complètement repensé. Et donc, je trouve vraiment, on gagne d'avoir les deux côtés et de comprendre beaucoup plus aussi les différences de perception. Et pour avoir suivi un petit peu la genèse du manuel d'histoire franco-allemand, ben, c'est finalement beaucoup mieux quand il y a deux historiens qui se mettent ensemble par envie, parce qu'ils ont envie de s'échanger sur un même fait historique.
Oui, il y a un équivalent qui est le mémorial de Caen, où on a les images du débarquement prises par les Américains, et enfin par les Alliés, et prises par les Allemands. Après tous les propos futiles que nous venons de tenir pendant une heure, vous allez enfin entendre quelque chose de sérieux, puisque Alain Crugère, dans son émission « On ne parle pas la bouche pleine », reçoit Roberto Panizza, qui est le créateur du championnat du monde de pesto au mortier. Il a lui-même commencé à l'âge de 10 ans à pilonner son premier pesto et il a ensuite créé ce championnat du monde dont les éliminatoires ont lieu en ce moment en Espagne et en France avant la grande finale qui aura lieu au printemps prochain dans le palais ducal de Gênes. Je vous recommande donc de retrouver, je vois que Thierry Pêche s'entraîne ou se prépare à s'entraîner pour se présenter à ce championnat du monde et il ne me reste plus qu'à vous dire que c'était l'Esprit Public, une émission de Philippe Meyer, réalisé par Luc-Jean Reynaud, préparé avec Adrien Nazelli, Anne-Sophie Pierry et Chloé Bousquet, avec aujourd'hui à la technique Manon Houssin. Et je vous donne donc rendez-vous, mais je crois que je l'ai déjà dit deux fois, la semaine prochaine, non seulement à la même heure sur cette même chaîne, mais pour ceux d'entre vous qui souhaitent venir à la Maison de la Radio en public et en direct.